Bonjour, bonjour, salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Jean Massier Invitational, très content de vous retrouver. On est le vendredi 2 octobre 2020, il est 18h et je suis avec mes trois invités, Usul, Salomé et Léa, qui vont avec moi discuter de l'actualité politique de cette semaine. Plusieurs thèmes que j'ai sélectionnés. On va parler de la présentation du projet de loi de finances qui a eu lieu lundi, on va parler des élections sénatoriales qui ont lieu dimanche dernier et on va parler du discours sur la lutte contre le séparatisme qu'a prononcé le président de la République Emmanuel Macron ce matin depuis la mairie des Mureaux. Avec moi donc dans cette émission, Usul qui est chroniqueur chez Mediapart.
Bonjour.
Dans l'émission Ouvrez guillemets, salut Usul. Salomé qui est journaliste pour le média Le Vent se lève, salut Salomé.
Salut.
Et Léa qui est créatrice, fondatrice et animatrice du podcast Place du Palais Bourbon, salut Léa.
Salut à tous.
Alors, je vous propose, les amis, qu'on commence par parler du budget. Le budget qui a été présenté, ça y est, on a la mouture du budget qui a été lâché qui a été adopté en Conseil des ministres et présenté du coup par le ministre du budget et surtout le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Le projet de loi de finances pour l'année 2021 est un projet de loi qui est massivement consacré à la relance pour l'année prochaine. L'année 2020 était une année assez ravagée en termes de budget puisqu'on a eu 4 budgets rectificatifs pour cause de Covid, 4 budgets rectificatifs qui ont été l'occasion pour l'État, pour le gouvernement de débloquer énormément de fonds d'urgence pour accompagner les mesures de confinement, et là on rentre dans la logique de relance, donc le budget 2021 consacre une bonne partie de la relance. Je vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo on a 45 milliards d'euros de réduction d'impôts tout confondu, 36 milliards d'euros du plan de relance. Sur les 100 milliards d'euros du plan de relance, il y en a déjà 36 millions qui sont de crédits engagés dès l'année 2021 avec les priorités sur l'écologie, sur la compétitivité des entreprises et sur la cohésion sociale et l'emploi. Voilà. Et le tout dans une prévision de croissance de 8% prévue pour l'année prochaine suite au recul de 10% de cette année. Bon bref, j'ai pris plein de notes. Ce n'est pas la peine de faire un inventaire à la Prévert. Est-ce que vous avez suivi la présentation de ce budget et qu'est-ce que vous en pensez de manière très large? Usul, on commence par toi.
Si tu veux, oui. Moi, j'en pense pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on est dans la continuité.
Pas de surprise.
Non, il y a pas de surprise. D'autant plus que la politique économique menée va être la même. Donc la crise, en fait, ça change rien. Le Covid, ça change rien. Petit plan de relance qui est un plan de soutien, d'ailleurs. Aux entreprises beaucoup plus qu'aux salariés. On reste sur de la politique de l'offre. Enfin, il y a pas de. Oui, non, il y a vraiment pas de grosse surprise. Et c'est même une déception, mais une déception à laquelle on s'attendait, quoi. C'est-à-dire que rien ne pourra infléchir le cours de la politique économique menée par le gouvernement.
Voilà. Salomé, toi aussi, tu ne t'attendais à rien et t'es quand même déçu?
Exactement. Oui, c'est un petit peu ça. Mais notamment après le cas de l'entreprise de Bridgestone, où on a vraiment vu les dégâts que ça pouvait faire quand on donnait comme ça de l'argent et on offrait des avantages à des entreprises, notamment à des multinationales, sans demander aucune contrepartie. Moi, le problème que me pose principalement ce plan de relance, c'est le fait qu'il semble tirer aucune leçon du passé et qu'on applique exactement la même politique à des multinationales qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires par an et à des PME qui sont vraiment dans le besoin, et on offre les mêmes avantages à ces entreprises-là, voire plus d'avantages encore à certaines multinationales. Et c'est extrêmement problématique, cette politique. Elle semble pas vraiment s'adapter à la taille des entreprises. Et j'ai regardé, alors je suis pas experte.
Tu fais référence au CICE quand tu dis ça?
Oui, je faisais référence là au CICE, mais quand on voit un petit peu le détail de la répartition de ces, parce que c'est principalement des baisses de cotisations, des baisses d'impôts, il y a par exemple la CVAE, qui est une taxe dont vont être exonérées désormais les entreprises, et c'est une taxe qui déjà ne s'appliquait pas en fait aux PME, ça s'appliquait pas aux entreprises qui réalisent moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc pour ces entreprises-là, de toute façon, c'est même pas une bonne nouvelle, puisque toutes les entreprises qui sont en dessous, puisque ça ne change rien pour elles. Donc c'est un exemple un petit peu qui est assez emblématique pour moi de cette politique-là. Et puis bien sûr, on n'a pas de relance massive dans le service public, qui est pourtant ce que demande quand même une partie des citoyens, en particulier les hôpitaux. Pour moi, un budget, une loi, un projet, pardon, de loi du budget en 2020, en pleine pandémie, je ne comprends pas comment il peut ne pas y avoir une partie majeure consacrée à la santé. Et là, on est focalisé sur les entreprises.
Pour le coup, ça fait partie du plan de relance. Pour le coup, non, la santé ne fait pas partie de la relance économique. La santé fait partie des engagements de crédit qui ont été décidés notamment dans le cadre du Ségur, pour les hôpitaux dans les mesures d'urgence et pour la revalorisation des rémunérations. Non?
Oui, mais qui est minime à côté de quand on voit là, moi j'ai l'impression qu'ils sont en train de mettre tous les fonds publics dans des cadeaux à des entreprises, en tout cas c'est mon impression, ou en tout cas vraiment purement dans la relance économique sans se focaliser sur les services publics. Et c'est pour ça que je suis un peu, oui, pour moi ça va dans la continuité de ce qu'ils font, et puis toujours pas d'aide particulièrement aux employés, mais toujours, oui, aux entreprises, aux patrons.
Léa, toi aussi, t'es d'accord? Politique de l'offre seulement?
Alors oui, ça c'est assez clair, on est clairement dans une politique de l'offre, on est d'accord sur tous les aspects cadeaux aux entreprises, avec une volonté quand même de faire des plus gros cadeaux aux plus grosses entreprises, ça je suis tout à fait d'accord et je partage parfaitement l'avis de Salomé et d'Usul là-dessus. Il y a quelques éléments que j'avais quand même envie de rajouter, pardon, pour alimenter un peu plus le débat, on rentre un tout petit peu dans les détails, notamment sur les efforts qui sont faits sur les hausses des budgets par ministère. J'ai trouvé ça assez intéressant. Le Monde a fait ça très, très bien. Vous avez une espèce de déroulé qui est très bien fait dans un article du Monde là-dessus. On voit qu'il y a quand même une hausse du budget des ministères pour certains ministères. Alors, on a une hausse importante pour l'intérieur, on a une hausse importante pour les armées et on a une hausse assez importante aussi pour la justice. Quand on va un peu plus dans le détail, notamment en termes de postes, parce que le PLF, c'est aussi l'occasion de supprimer ou de rajouter des postes dans des ministères et dans certaines administrations centrales, on voit que pour ce qui est du budget de la santé, du ministère de la Santé, il y aura 76 postes qui vont être créés. Alors qu'on sait très bien qu'il y a quand même un problème au sein des administrations, notamment pour faire remonter les problématiques sur le terrain et pour dispatcher la prise de décision et compagnie. Enfin, ça, on l'a vu pendant la crise et on le voit encore aujourd'hui. Contre quand même, et ça, c'est assez intéressant, 1300 recrutements à l'intérieur. Donc voilà, juste pour info. Donc, on voit quand même qu'il y a effectivement une...
Ils sont ventilés comment, les recrutements à l'intérieur ? En fait, c'est la préfectorale, c'est la police.
J'ai pas regardé dans le détail. Et d'ailleurs, c'est pas précisé hein, non plus. C'est pas du tout précisé. Je pense que c'est plus dans les secteurs administratifs, peut-être en préfectoral.
C'est du recrutement ou du transfert?
C'est du recrutement.
Ok, c'est du recrutement.
De poste, ouais, a priori.
Ok.
Donc voilà, c'est assez intéressant, mais effectivement, ça mériterait d'être regardé davantage dans le détail. Mais il y a quand même un élément important. On voit que finalement, en temps de crise sanitaire, il y a quand même, à travers ce plan de relance, la préparation de la campagne présidentielle de 2022. Et ça, on le comprend par rapport aux arbitrages qui sont faits, notamment sur le choix des hausses budgétaires. Donc, on voit intérieur, armée, justice, c'est vraisemblablement là-dessus que Macron va faire l'effort et il va axer son discours pendant la campagne, parce qu'il ne pourra pas faire campagne sur son bilan économique, ce ne sera pas possible parce que bon, bah, là, en effet, bon, à sa décharge, pour une fois, la conjoncture ne joue pas particulièrement en sa faveur. Alors, hormis ne pas froisser ses potes du CAC 40 et compagnie, effectivement, alors, j'ai bien aimé, ce n'est pas du tout un plan de relance, c'est effectivement un plan de soutien.
Oui.
Tout à fait d'accord avec toi, Usul. On ne voit pas forcément d'avancées majeures, notamment en termes d'avancées sociales et de sécurité pour ceux qui auraient perdu leurs emplois. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Il y a un investissement massif dans la formation professionnelle, quand même, qui pour le coup n'est pas une nouveauté, qui avait déjà été le cas. Ça fait déjà plusieurs années qu'on met le paquet sur la formation professionnelle.
Oui, et puis Macron, depuis 2017, était quand même assez axé formation pro, tout de même.
Mais ce qui au demeure, oui, complètement, mais ce n'est pas le seul. Ce qui au demeure est parfaitement critiquable, mais c'est qu'eux voient la formation professionnelle comme un plan de soutien à l'emploi et à la lutte contre la précarité, avec le discours de la meilleure des protections, c'est de pouvoir trouver un boulot et de pas complètement dépendre que des allocations chômage. Mais bref. Moi, j'avais quand même une question que je voulais vous poser à tous les trois. C'est est-ce que... Ce PLF met en musique la politique économique du coup du gouvernement pour la fin du quinquennat. Est-ce que c'est une politique libérale? Sachant que moi, je pense que la réponse est non. Mais du coup, j'ai bien envie de vous entendre d'abord. Salomé.
Moi, je pense que il y a une forme, je ne vais pas dire d'état-providence, mais il y a une forme de... Sans la crise du Covid, on n'aurait pas fait ce soutien à ce point à certaines entreprises, à certains employés. Donc, ce n'est pas ultra-libéral au sens où on l'entendait avant la crise. Je pense que c'est un peu de l'état providence conjoncturel, c'est-à-dire que ça ne va pas durer. et qu'on essaye de... C'est un peu de la nécessité pour sauver leur mode, justement, libéral. Donc, en ce sens-là, c'est libéral. Mais le fait de soutenir, enfin, le fait qu'il y ait eu voilà, du chômage partiel, qu'il y ait actuellement une politique qui essaie de maintenir à bout de bras ce système-là, il peut y avoir certains aspects de ce plan et de la politique actuelle qui pourraient être considérés dans un autre contexte comme pas vraiment libéraux. Je pense au chômage partiel, par exemple. Mais dans l'ensemble, oui, la politique du gouvernement est libérale.
Ok. Jules ?
Oui, bah d'autant plus que voilà, y a un transfert, il y a quand même un transfert de ressources vers le secteur privé qui continue avec ses allègements, etc., avec tous les allègements de ponctions qui sont prévus, notamment l'impôt sur la production, etc. Donc il y a un transfert, mais il y a un transfert aussi du coup de compétences presque, parce que vous savez maintenant on demande aux entreprises d'avoir une raison sociale qui dit qu'il faut qu'ils respectent l'écologie ou je sais pas quoi. En fait on est en train d'en demander de plus en plus aux entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de pilote dans l'avion. L'État ne pilote plus rien. L'État ne veut plus piloter. Ça n'est pas sa responsabilité. Alors là on a par exemple un autre problème. On a ce stock d'épargne, par exemple, qui s'est accumulé. Comment on va le chercher? Parce qu'on a notre vrai problème. Si Bruno Le Maire veut rembourser de la dette en créant de la croissance verte, de l'emploi et des gains de productivité, mais comment on force les entreprises à un moment à investir pour qu'on ait véritablement ces gains de productivité? Comment on dirige le capital vers justement les entreprises, mais vers ce budget-là de gains de productivité dans les entreprises? Ou vers la recherche, ou vers la santé, ou vers toutes ces choses-là aussi, qui vont faire que ça va pouvoir soutenir la croissance de ce pays à un moment. Donc, en gros, il n'y a pas de dispositif qui soit prévu, c'est allez-y, et vous leur demandez, alors oui, on a souvent dit, oui, il n'y a pas de contrepartie, mais vous leur demandez aux entreprises, en gros, de développer de l'emploi et de gagner de la productivité, et eux, ils disent oui. Et si on demande au gouvernement, alors, c'est quoi les contreparties? Ils disent, non, ça repose sur la confiance.
Ouais.
Donc la confiance, c'est toujours le truc. Donc la confiance, donc on leur donne un blanc-seing en permanence et allez-y, payez moins. Il y a moins, le taux de prélèvement obligatoire du coup va baisser un petit peu dans ce pays. Donc allez-y, faites, démerdez-vous. Donc, si c'est libéral en ce sens-là.
Moi, sans aucune transparence. C'est-à-dire que non seulement on leur demande pas, on les menace pas de leur demander de rembourser s'ils respectent pas leurs engagements, mais on leur demande pas de montrer un bilan. On leur demande même pas de faire un compte rendu à la fin de ce qui se fait. Il n'y a aucune transparence sur ce qui se passe dans les entreprises.
Moi c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. J'ai l'impression qu'on manque d'outils théoriques pour désigner la réalité des politiques économiques européennes aujourd'hui, parce que pour moi on s'éloigne énormément du libéralisme là où il y a des plans d'investissement qui sont massifs. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait un État qui donne 100 milliards d'euros ne fait pas du libéralisme. Alors attention, l'État ne donne pas 100 milliards d'euros, n'investit pas 100 milliards d'euros. Dans les 100 milliards d'euros du plan de relance, il y a aussi ce qu'on appelle des efforts budgétaires, donc des réductions d'impôts. Une réduction d'impôts, ça va plutôt dans le sens du libéralisme. Pas nécessairement, pas absolument et pas tout le temps, mais ça va plutôt dans ce sens-là. Mais néanmoins, il y a quand même un interventionnisme étatique en cette période de Covid. Il y a une espèce de néo-keynésianisme un peu chelou, qui est une relance qui passe en grande partie par l'offre, assez peu par la formation, par la demande, même s'il y a quand même des primes qui sont données à l'apprentissage. Il y a quand même...
Les primes... Hein, ils aiment bien, hein, ils préfèrent ça aux hausses de salaire.
Oui, non, mais c'est-à-dire
la prime, tu peux la donner, tu choisis à qui tu la donnes, tu peux la retirer. Ça, la prime, c'est génial, mais les primes, c'est nul.
Enfin... Là, en l'occurrence, c'est une aide aux entreprises pour embaucher des apprentis. C'est pas une prime pour les c'est même pas une prime pour les apprentis, mais j'ai beaucoup de mal à voir le libéralisme qu'on avait avec Nicolas Sarkozy et François Fillon en 2007-2008 dans la politique qui est menée aujourd'hui en France et en Europe. Enfin, j'ai plutôt l'impression, et par ailleurs il y a quand même des gros aspects protectionnistes européens, pas français mais européens, dans cette politique où t'as quand même de la conditionnalité, de l'éco-conditionnalité à plein d'investissements. T'as des barrières douanières qui sont en train d'être mises pour les pays, pour les produits importés. Donc
quelles barrières douanières exactement?
Sur les importations de produits qui sont pas produits en Europe, ça a été annoncé par le Conseil européen pour le coup. La volonté notamment défendue par Emmanuel Macron, qui a réussi à convaincre Angela Merkel, de taxer davantage les produits qui viennent en dehors de l'Europe et qui pourraient être fabriqués en Europe. C'est, comme il le dit, la leçon qu'on a tirée de la dérive de la mondialisation avec le Covid. Voilà.
D'accord.
Léa,
ouais.
Politique libérale ou néo-keynésianisme?
Tu m'as un peu devancé en disant plus ou moins ce que j'allais dire. Mais c'est assez intéressant, c'est ça. Hein, on n'est pas du tout dans une logique d'interventionnisme étatique comme on peut le connaître dans le cadre d'une politique keynésienne, notamment par les relances. On est vraiment dans un interventionnisme qui vise à rassurer et à jouer sur la confiance, en fait. Pour relancer la main invisible, évidemment. Et finalement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur 2007-2008, parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà vu en fait, pendant la crise financière, la crise des subprimes en 2008 et après avec ce qui a suivi, notamment à l'échelle européenne. Tout ce qui a été fait, enfin, à l'échelle européenne, pardon, tout ce qui a été fait et tout ce qui est fait aujourd'hui est fait pour uniquement rassurer les marchés. Rassurer les marchés, rassurer les marchés, rassurer les marchés. C'est la nouvelle forme interventionniste acceptée dans une économie prolibérale, en fait. C'est le seul levier que l'État peut actionner pour intervenir. Et c'est le seul levier acceptable, en fait, dans un monde libéral, enfin, dans une économie néolibérale, à mon avis.
C'est ça, c'est-à-dire où est le pouvoir? Le pouvoir, il est toujours dans l'entreprise. Alors, on fait tout pour favoriser l'entreprise et on demande du coup aux entreprises de faire. Ça, je suis d'accord, on leur demande, on leur dit, on leur donne un cap. On leur dit, ce serait bien que vous fassiez de l'emploi, ce serait bien que vous fassiez de la transition. On va essayer de vous y encourager, mais en gros, c'est à vous de faire et on va vous donner tous les moyens. Sauf qu'ils viennent d'où, ces moyens? Ben, c'est les nôtres. C'est nous, c'est notre travail, c'est nos services publics.
C'est ce que l'économie génère par son activité aussi.
Oui, l'économie, moi, je ne sais pas ce que c'est le travail qui génère la richesse.
C'est bien sûr, on travaille les échanges, oui.
Donc, on va travailler plus, notre droit du travail va encore être sapé, il est prévu, Bruno Le Maire nous a prévenu aussi, des nouvelles économies, encore l'année d'après, mais c'est génial, parce que bon, lui, il va pouvoir dire, regardez, on n'a pas augmenté les impôts, on a bien baissé les impôts, on a appauvri l'État, encore une fois.
Pour le coup, c'est de l'endettement, pour le coup, on a remplacé, il y a 45 milliards d'euros de réduction, on fait péter aussi l'endettement, l'émission de titre a jamais été aussi importante depuis le début de l'année. Ce qui est un gageur, hein, c'est un pari sur l'avenir. On s'endette massivement en ce moment pour soutenir cette croissance, pour éviter de refaire ce qui a été fait par Fillon à l'époque, qui était la fameuse rigueur, la politique de rigueur, où on cut à tour de bras, enfin on essaye de maintenir tellement les 3% de déficit qu'on cut à tour de bras. Au demeurant, il n'y a plus de...
Est-ce qu'elle va venir, cette croissance, si on n'a justement pas, si notre économie ne se transforme pas, si on n'a pas ces gains de productivité attendus, est-ce qu'on n'est pas juste en train d'arroser du pognon qui va après partir, on ne sait pas où?
Alors d'où le truc, d'où la question, et je vois que Salomé a envie d'intervenir, est-ce qu'on n'a quand même pas un peu un état stratège, justement, et pas seulement François Bayrou, le commissaire au plan, hein, je parle d'état stratège qui met 30 milliards d'euros dans la transition écologique, en disant à partir de maintenant, il va falloir faire de l'hydrogène, et on va arroser de pognon, Salomé.
Ah mais... À mon sens, c'est un État peut-être stratège, mais un État stratège ultra-libéral. C'est-à-dire qu'encore une fois, il s'agit de soutenir un modèle qui est profondément inégalitaire et dont on a souligné à maintes reprises les défauts et les problématiques. Là, on donne de l'argent, encore une fois, à des entreprises. On rassure les entreprises, on rassure les marchés. On ne donne à aucun moment de l'argent directement aux populations qui en ont besoin pour relancer la consommation, qui sont des plans qui ont pourtant été proposés, notamment pendant la crise. J'ai vu plusieurs fois des économistes parler de monnaie hélicoptère. Je ne sais pas si vous aviez vu un peu ça, où il disait que la Banque centrale, notamment la Banque centrale européenne, pourrait directement arroser, mais cette fois-ci pas les entreprises, mais les consommateurs directement avec des liquidités, leur mettre 5 000 euros sur leur compte en espérant qu'ils puissent consommer et surtout en pouvant prévenir ainsi la pauvreté de masse qui, on l'a vu, là, pendant la crise, a fortement augmenté. Il me semble qu'il y a eu un dernier rapport d'une association, je ne sais plus.
Sur l'accroissement des inégalités, c'était Oxfam, je crois.
Sur l'accroissement des inégalités, mais là, très récemment, sur l'augmentation de la pauvreté en France, c'était sur France Inter que j'ai entendu ça il y a 2 jours, où ils expliquaient qu'il y avait de plus en plus de personnes qui demandaient qui allaient aux distributions de nourriture et que les chiffres avaient doublé et que c'était vraiment très impressionnant. C'est quelque chose qui ne serait pas nécessairement arrivé si on avait directement relancé auprès des consommateurs et pas auprès des entreprises dont on doit attendre c'est toujours la question du ruissellement, parce que là, c'est pas forcément approprié, mais de quand est-ce qu'on va avoir les bénéfices de ces dons qu'on fait aux entreprises? Ça peut prendre beaucoup de temps, et entre-temps, la pauvreté a le temps d'augmenter et les inégalités de s'accroître.
On va changer de sujet. On va changer de sujet. On va parler des élections sénatoriales, si ça vous convient. Les élections sénatoriales ont eu lieu dimanche dernier. Ça excite tout le monde. Les élections sénatoriales, c'est génial.
Oui, je croyais qu'on n'en parlerait pas.
Mais si, on va quand même en parler. On va quand même en parler. Justement, parce que moi j'ai une question quand même à vous poser. Pourquoi tout le monde s'en branle tout le temps du Sénat? Mais c'est une vraie question institutionnelle. Hein. Pourquoi est-ce que cette institution continue à être cette espèce de truc un peu à côté? Dont tout le monde se branle. Est-ce que vraiment le Sénat, ça sert à rien pour vous, franchement? Pierre, Salomé. Usul, pardon, Salomé.
Non, c'est pas que ça sert à rien. En effet, ça a un rôle dans les institutions. Manifestement, le Sénat, quand il passe à gauche, ça arrive, hein, de temps en temps. Enfin, c'est arrivé. Quand il repasse à droite, bon, ça change un peu les équilibres du pays. C'est vrai que quand Hollande arrive, il a un Sénat à gauche, il me semble.
Oui.
Il a les deux chambres avec lui et tout, il peut faire ce qu'il veut, c'est vrai que c'est bien. Bon, là, là, il n'y a pas eu un bouleversement d'équilibre, c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas non plus palpité les foules.
Mais au demeurant, le passage à gauche du Sénat en 2011-2012 n'a rien changé. On va pas se mentir, le Sénat reste le Sénat même quand il est à gauche. Là, pour le coup, ça va plutôt dans le sens de le Sénat est éternellement le Sénat et qu'il soit à droite ou à gauche, en fait, on n'en voit pas la différence. Salomé, toi, le Sénat, c'est un truc que tu...
Alors, honnêtement, c'est une institution que je connais mal, donc je ne veux pas m'étaler trop là-dessus, mais est-ce qu'on voit souvent dans les médias le Sénat a bloqué ce projet de loi crucial pour le gouvernement? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'on n'en entend pas parler, parce qu'à mon sens, il se positionne peu sur la scène politique, enfin pas assez pour que ce soit déterminant et que ça change tout Enfin, moi, c'est pour ça que ça m'intéresse peu. En tout cas, là, il continue à être à droite, à tout faire passer. C'est pour ça que ça m'intéresse peu à titre personnel, en tout cas.
Le Sénat ne peut pas et ne veut pas être un bloqueur de la politique, non pas de la politique gouvernementale, mais des décisions in fine de la Chambre basse qui est l'Assemblée nationale.
En fait,
Léa, est-ce que du coup, ça en fait une institution qui ne sert pas à grand-chose?
Pour moi, ce n'est pas vraiment une question de positionnement politique, parce qu'il est arrivé que le Sénat prenne position politiquement, et parfois de manière assez surprenante.
Récemment
et ou pas, hein, même avant, sous Hollande. En fait, le problème, c'est un peu ce que tu commençais à dire, Jean, c'est un problème institutionnel en réalité, parce que la Constitution et les règlements d'Assemblée sont faits de telle sorte que quand on est dans une assemblée qui découle de la majorité présidentielle, on est avec un outil législatif qui est finalement plus ou moins à la botte du gouvernement, parce que le gouvernement peut décider, et c'est souvent le cas hein, pour la majeure partie des projets de loi, de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale, donc c'est l'Assemblée nationale qui tranche. Donc institutionnellement, je pense que le Sénat a quand même effectivement un certain handicap, disons, par rapport à la Chambre basse. Mais je ne suis pas sûre que ce soit... Alors là, effectivement, je pense que globalement, c'est un positionnement politique qui est assez logique par rapport à la politique qui est menée par le gouvernement. Le Sénat aurait du mal à s'offusquer de la politique mise en œuvre actuellement par Macron, qui est globalement plutôt une politique globalement de droite, moi, je trouve, et qui finalement...
Ils sont franchement opposés, hein.
Oui, mais pas surtout. Finalement, tu vois que les centristes au Sénat sont quand même un groupe assez important.
L'Union centriste est très, très macronienne, oui, ça je suis d'accord avec toi.
Très macronienne, tu vois, et elle est fondamentale pour l'équilibre politique au Sénat. Je veux dire, la droite finalement pèserait peu sans les centristes, on ne peut pas faire qu'avec LR. Donc je pense que finalement, le Sénat est favorable à la politique du gouvernement, c'est pour ça qu'on les entend peu. Mais ça peut parfois être un outil d'opposition politique, ce n'est pas le cas actuellement, parce qu'ils sont globalement assez proches de ce qui est fait, mais je pense que dans un cas contraire, ça pourrait effectivement être un outil politique qui peut au moins susciter le débat sans forcément arriver à une prise de position institutionnelle qui puisse effectivement être gravée dans le marbre, parce qu'encore une fois, l'Assemblée a souvent le dernier mot sur les textes.
Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Je les trouve très, très casse-couilles, le Sénat, justement, avec le gouvernement. On l'a vu avec l'affaire Benalla et plus globalement avec l'effondrement de l'intérêt politique de l'Assemblée nationale sous la Macronie, qui, pour des raisons, enfin voilà, le groupe LREM à l'Assemblée nationale est loin d'être chiant par rapport au groupe PS à l'époque du quinquennat PS, qui avait des frondeurs, etc., où c'était complexe, fallait composer, même si t'étais hégémonique, fallait quand même composer avec ces mecs-là. Bon, voilà, l'Assemblée nationale sert plus à grand-chose depuis que La République En Marche tient la boutique et que le pouvoir macronien est quand même très très centralisé. Le Sénat a réussi à démontrer une forme d'utilité un peu chelou au cours de ce quinquennat, notamment au moment de l'affaire Benalla, en montrant que, bah, en fait, quand il se passe rien nulle part, il n'y a plus qu'au Sénat qu'on peut faire des trucs, et que du coup, les sénateurs ont un malin plaisir à foutre leur nez dans les affaires de l'exécutif. On est arrivé jusqu'à avoir le secrétaire général de l'Élysée qui se plaint du fait que le Sénat travaille, quoi. C'est quand même génial. C'est-à-dire que les mecs ont une forme de reconnaissance par la négative. Et puis par ailleurs, non, on a quand même un bonhomme, et ça je voudrais qu'on en parle aussi, il y a un bonhomme qui a été réélu triomphalement sénateur, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains, qui se voit pousser des ailes de potentiels candidats, etc. Est-ce que Bruno Retailleau, en tant que chef de la chambre d'opposition, enfin en tout cas du groupe majoritaire, peut devenir un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron dans sa stratégie de je prends le pouvoir à droite en 2022. Usul, tu fais oui de la tête depuis tout à l'heure.
Gérard Larcher avait emmerdé Macron, notamment sur sa réforme constitutionnelle.
À mort.
Ça avait fait traîner à donf, du coup, voilà. Bon, oui, il y a un pouvoir de nuisance, il y a un pouvoir... Après, bon, le problème, c'est que ça manque un petit peu de médiatisation, le Sénat, mais pour une raison aussi, tu avais commencé là-dessus, Jean. Pour une raison assez simple aussi, c'est que on vote pas. Donc c'est nos grands électeurs qui vont voter pour nous. Donc ça fait pas une grand messe où on peut faire des émissions spéciales, etc. Et donc du coup, oui, il y a moins de visibilité aussi, même de cette institution, du fait du seul mode de désignation des gens qui vont y siéger déjà. Mmh. Mais donc c'est moins exposé, mais c'est quand même ça peut permettre de mettre en effet un petit caillou dans la chaussure. Et puis de toute façon, il va être obligé de le faire vu que il se sent pousser des ailes, certes, mais il va falloir qu'il marque une différence, et il va essayer de le faire au Sénat. Oui, c'est certain.
Il y a quand même ces élections sénatoriales ont quand même donné une nouveauté, c'est la constitution d'un groupe écolo au Sénat. Quand je dis nouveauté, c'est pas tout à fait nouveau, parce qu'il y en a déjà eu un qui a existé entre 2012 et 2017, mais le précédent groupe, il avait été le fruit d'un accord politique passé entre le PS et les écolos. En échange du soutien des écolos à François Hollande en 2012, il y avait eu la création, enfin du coup, des sièges qui avaient été laissés sur les listes sénatoriales, de manière à ce que les écolos aient un groupe au Sénat en plus d'un groupe à l'Assemblée. Et là, ça y est, les écolos ont leur propre siège maison comme des grands, leur propre groupe, pardon, au Sénat. C'est une nouveauté dont se réjouit Patrick Kanner, le président du groupe PS, en disant que c'est bien parce qu'au Sénat, du coup, on a trois groupes de la gauche pluriel. Du coup, les communistes ont leur propre groupe, qui d'ailleurs est renforcé, les socialistes qui ont leur groupe, qui est le plus gros des groupes d'opposition au Sénat, avec 65 sièges, je crois, et les écolos ont désormais leur propre groupe, et ils trouvent qu'il y a un équilibre. Est-ce que le Sénat peut-être une chambre où se construit là aussi cette union de la gauche dont on avait déjà parlé dans une précédente émission, cette union d'une certaine gauche?
Oui, sans les insoumis, du coup.
Sans les insoumis, du coup, exactement. Insoumis qui n'ont pas le moindre sénateur, puisque les insoumis n'ont pas d'assises territoriales comme les ont les autres partis, quoi.
On voit que c'est aussi ça le rôle du Sénat, hein, c'est de justement, par son mode de désignation et par sa temporalité aussi, son renouvellement, de faire en sorte de n'acter que les changements profonds et durables, et de ne pas être, c'est pour ça que c'est créé une chambre haute, hein, c'est pour pas être à la merci des revirements de l'opinion, du vote des gens. Donc oui, il sera toujours là derrière un petit peu à la ramasse, mais du coup c'est aussi pour cette raison que je pense que s'y retrouve aussi de vieilles manières de faire, et c'est pas de là que viendra une nouveauté à gauche. En tout cas.
Salomé, la constitution d'un groupe écolo au Sénat, c'est une bonne nouvelle, y compris pour l'écologie politique. Ah, tu soupires déjà.
Oui, on peut toujours se réjouir qu'il y ait peut-être plus de préoccupations écolo, mais je suis pas du tout persuadée. Mais encore une fois, je connais mal le Sénat, donc je ne veux pas me permettre de trop mépriser cette institution, mais pour moi ça change pas la face du monde du tout, et j'ai pas du tout l'impression que le fait qu'il y ait la création d'un groupe écologiste au Sénat va nécessairement aider l'union de la gauche, que ça peut se constituer au Sénat. J'ai du mal à y croire, mais encore une fois, n'étant pas experte du sujet, je reste réservée là-dessus.
Ok. Léa, la constitution d'un groupe écolo au Sénat, toi aussi ça te laisse de marbre?
Non, je trouve ça assez intéressant politiquement, en termes d'analyse politique, justement. Jules, tu le disais brièvement tout à l'heure. Parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, il n'y a pas eu de réelle vague verte. Parce qu'il faut le rappeler, les sénateurs sont élus par 95% des maires et des conseillers municipaux, donc ce qui est quand même assez important. Donc logiquement, s'il y avait eu cette fameuse immense vague verte dont on a parlé dans les médias, à fond, on aurait vu effectivement une répercussion quand même sur, j'imagine, les sénatoriales, et ça n'a pas été le cas, parce que finalement, il faut rappeler qu'il n'y a que 6 sénateurs qui ont été 6 sénateurs supplémentaires de gauche, enfin, pardon, n'importe quoi, désolé pour, écolo. Pour l'absus, écolos qui ont été élus, donc ça en rajoute 6 aux 4 qui existaient déjà, donc ils ne sont que 10, ce qui est quand même pas lourd sur 348 sièges, il faut le dire. Et en fait, non, en fait, ça montre que finalement, la vaguelette verte a été possible que par rapport à des alliances qui ont été faites notamment avec la gauche et que finalement les grands barons de la droite et de la gauche conservent clairement leur bastion au niveau national, au niveau local. Et là, on voit aussi que toutes les émergences politiques nouvelles ou qui se veulent nouvelles, on pense bien sûr à La République En Marche, on pense aux écolos et compagnie, et les filles aussi finalement, et aussi concernées par ça, ont une répercussion et une résonance au niveau national, mais n'ont finalement aucune répercussion au niveau local, pour le moment en tout cas. Donc ça, je trouve que finalement, le résultat des sénatoriales permet d'avoir quand même une grille de lecture sur l'évolution du paysage politique en France, qui est peut-être anecdotique par rapport à ces nouveaux mouvements qu'on a vus émerger. Et finalement, est-ce qu'on fait pas, on continue à faire de la politique à la papa comme on le fait depuis des décennies, et avec la bonne gauche et la bonne droite, je ne sais pas.
Pour le coup, il y a Prisser dans le chat qui fait remarquer un truc, c'est que La République En Marche s'en sort quand même surprenamment bien dans ces élections sénatoriales. On s'attendait à un fiasco absolu suite au fait qu'ils se sont pris une tôle monumentale aux élections municipales. Et La République En Marche, ils ont quand même réussi à faire élire François Patria en Côte d'Or, à la surprise un peu générale, qui est le président du groupe. Le Cornu et Le Moine, qui sont deux ministres, sont élus. Bon, c'est un succès sénatorial, hein, c'est pas non plus... voilà, mais...
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que ça peut être surprenant par rapport à ce qui s'était passé pendant les municipales, mais il faut quand même minimiser un peu le succès, parce qu'ils n'ont plus que... Enfin, je crois qu'ils n'ont qu'une vingtaine de sénateurs, donc c'est... Pour le parti en place et le parti gouvernemental actuel, c'est quand même un peu risible.
Ouais. J'ai une question un peu prospective pour vous trois, en se disant, le Sénat fait partie du paysage. Est-ce qu'on pourrait imaginer une réforme, alors pas une réforme du Sénat, mais plutôt dans une hypothétique 6ème République que vous appelleriez de vos voeux, ça ressemblerait à quoi le bicaméralisme ? Est-ce qu'on aurait, je sais pas, c'est à vous de me dire, est-ce qu'on foutrait full proportionnel pour une des deux chambres ? Est-ce qu'on ferait du tirage au sort ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ou Usul ?
J'avais fait un épisode là-dessus où j'étais allé interviewer, on était allé interviewer un chercheur en sciences politiques qui avait travaillé sur l'idée d'une autre chambre haute qui serait une chambre qui, par exemple, penserait les questions d'avenir et de long terme, parce que c'est aussi ça qu'on attend d'une chambre haute, parce que voilà, vu qu'on veut qu'elle soit pas versatile. Et donc du coup, comment penser les questions d'avenir sans faire une place à la jeunesse, par exemple? Voilà, tu vois, ça est-ce que cette chambre haute pourrait justement être pensée comme une chambre dans laquelle les formations politiques seraient représentées, mais pas seulement. Il pourrait y avoir une partie, certains parlent maintenant de tirer au sort, une partie de, voilà, comme ça a pu se faire pour la Convention citoyenne. Donc non, en fait, c'est un champ prospectif qui est vachement intéressant, hein, une réforme de la chambre haute. Ouais. Et d'ailleurs, il faudrait changer le nom, parce que Sénat, vous savez, c'est la même racine que sénile, hein. L'idée, c'est que ce soit des vieux.
Ouais, c'est vrai,
la même racine, hein, c'est le même mot.
Ouais, c'est vrai.
Donc voilà, peut-être qu'il faudrait le penser au contraire comme une chambre de l'avenir et faire une place aux jeunes là-dedans, parce que voilà.
Intéressant. Salomé, c'est un truc auquel tu as déjà réfléchi, une évolution institutionnelle du Parlement
Honnêtement, j'ai peu réfléchi, mais oui, je suis plutôt d'accord avec Usul là-dessus. Parce que la première chose à laquelle on pense quand on pense au Sénat, c'est avant tout une assemblée de vieux monsieur qui discutent entre eux. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça éveille aussi peu l'intérêt. C'est quand même fou, une institution où il y a aussi peu de jeunes et qui effectivement ont peut-être un petit peu de mal à se tourner vers l'avenir.
C'est quand même de moins en moins vrai. Hein. Le cliché du Sénat 3e-4e République avec des vieux monsieur, il a quand même pris un sacré coup dans la gueule depuis les élections, depuis les élections 2000.
Et en plus, enfin, c'est beaucoup... l'institution où il y a le moins de femmes aussi, il me semble.
Ouais. Non, bien sûr, c'est vrai. Mais ça a énormément évolué quand même ces 10 dernières années. C'est que le Sénat a quand même un nouveau visage maintenant en 2020 par rapport à la fin des années 2000. Il y a quand même un gros renouvellement, il y a quand même beaucoup plus de femmes qu'avant, il y a quand même beaucoup plus de jeunes de manière relative. Il y a toujours des vieux croutons ils sont toujours là. Mais c'est quand même moi pour le coup, ça fait 2 ans que je fais des émissions sur le Sénat en interrogeant des sénateurs et ils m'ont tous dit ça. Ils m'ont tous dit, c'est vrai qu'on est une chambre de vieux, etc. Mais putain, ça a quand même énormément évolué dans le bon sens depuis quelques années. Pour rendre à César ce qui est à César, je trouve que le Sénat a quand même un peu évolué, voire même, et c'est
quand même à 60 ans de moyenne d'âge, il me semble, hein, au Sénat.
Ouais.
Beaucoup.
50 et des brouettes à l'Assemblée nationale. Oui, mais à l'Assemblée nationale, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, l'Assemblée nationale n'est pas non plus une chambre de trentenaires. Hein. Tu vois, non, mais c'est aussi très masculin.
Pour le coup, avec les dernières élections, on a vu plus de 10 députés qui avaient moins de 30 ans. Enfin, on a vu quand même arriver à l'Assemblée nationale, même si c'était macroniste, malheureusement.
Ouais, c'est vrai. Bon, après, là, on a quand même des sénateurs jeunes. On a
au Sénat.
Le plus jeune sénateur a 26 ans. On a encore des sénateurs trentenaires. Il y a quand même du coup un paquet. Il y avait Fabien Gay, déjà, qui avait déjà été le sénateur communiste. Il y a... Le Cornu, le Moine ne sont pas franchement jeunots, mais ce n'est pas non plus des vieux croutons. Donc il y a un relatif renouvellement quand même au Sénat. L'autre truc moi, que je trouve intéressant dans l'évolution de ces dernières années, c'est encore une fois le fait que l'Assemblée nationale a beaucoup perdu de sa superbe avec l'arrivée de la Macronie. Le Sénat a retrouvé un intérêt, je trouve, dans le calendrier parlementaire. Le fait que les sénateurs s'attaquent beaucoup plus au fond des projets de loi, là où les députés continuent à faire de la politique politicienne. On a vu, on se souvient, par exemple, de la France insoumise à l'Assemblée nationale, qui était l'obstruction parlementaire pendant la réforme des retraites, le gouvernement qui a choisi du coup d'avoir recours à un 49-3, et on s'est retrouvé dans une situation où le Sénat allait être le seul endroit où on allait parler en fait du fond de la réforme des retraites, où on allait rentrer dans le débat sur les articles, sur la gouvernance du système de retraite, etc. Et du coup, je me souviens de sénateurs qui me disaient, en fait, l'Assemblée nationale, par son espèce de blocage institutionnel débile, nous donne de l'intérêt, de fait, parce qu'on va se retrouver à être les seuls à examiner des amendements, alors que du coup les députés l'ont pas fait. Et moi je trouve ça intéressant de voir que quand une chambre dégénère complètement, enfin dégénère, c'est pas le bon mot, faut pas déconner non plus, mais en fait le Sénat retrouve de son intérêt dans la politique institutionnelle. On a vu, et ça c'est mes camarades de chez Public Sénat qui me disent qu'il y a de plus en plus de journalistes qui viennent au Sénat. C'était un truc qu'on avait complètement perdu de vue depuis des années. Ça faisait des décennies que les gens venaient pas, s'en foutaient. Conférences de presse des groupes du Sénat, qu'est-ce qu'on s'emmerde et tout. Maintenant, les rédactions envoient des journalistes. Ils disent, tiens, le Sénat, il se passe un truc, on va voir, c'est intéressant. Ça déjeune avec des sénateurs au restaurant et tout. Donc moi, je trouve que le Sénat a une évolution institutionnelle que je trouve pas inintéressante, mais qui n'empêche pas la réflexion, comme tu disais, Usul, sur effectivement, dans une hypothétique 6e République, je suis pas persuadé qu'une chambre haute de ce type-là continuera à avoir de l'avenir, quoi.
Et pourtant, il y a une utilité dans la chambre haute, normalement. Permettre une certaine permanence, mais aussi permettre, pourquoi pas, une vision stratégique tournée vers l'avenir. Et c'est vrai que je reste là-dessus. C'est vrai que là, pour l'instant, d'ailleurs, tu parlais de la jeunesse, de l'âge avancé, qui est finalement tout relatif, tout de même, et qui a plutôt tendance à s'atténuer comme effet. Mais on a aussi noté que finalement, c'était les vieilles formations qui restaient.
Ah oui, bah oui.
Donc, ce rôle de permanence est toujours assuré, peu importe après l'âge des uns, l'âge des autres. Ce qui compte, c'est ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils vont faire, quelle est leur culture politique, etc. Et c'est pour ça que je pense que chez les jeunes, on va trouver une autre vision de l'histoire et une autre culture politique qui, à mon avis, serait souhaitable, en effet, pour imaginer le temps long. Parce que le temps long, c'est pas seulement faire en sorte que le passé perdure, mais c'est peut-être aussi anticiper ce qui va se passer dans l'avenir.
Alors, en parlant du temps long, et on va terminer là-dessus, il y a quand même aussi une réforme qu'Emmanuel Macron a engagée, c'est la réforme du Conseil économique, social et environnemental, la fameuse troisième chambre, et je mets des guillemets, constitutionnelle, qui jusqu'à présent représentait ce qu'on appelle la société civile organisée, donc les organisations associatives, mais surtout syndicales, du monde du travail, du monde associatif, etc., et qui était purement consultative. Ce Conseil économique, social et environnemental hérité de la 4e République est en train d'évoluer sous l'impulsion notamment de la Convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron a annoncé qu'il avait l'intention d'en faire exactement ce que tu dis, Usul, c'est-à-dire une chambre tout entière tournée vers non seulement le long terme, le très long terme, avec cette idée un peu chambre de la prospection, chambre du temps long et tout, mais aussi chambre de la participation citoyenne.
On voit le sort qui a été fait aux propositions, ou qui est en train d'être fait aux propositions de ces chambres, de cette convention citoyenne, tant que c'est que consultatif, et le point
institutionnel
est tout de même relativement modeste.
Et bah précisément, question, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir un CESE nouvelle formule qui aurait son mot à dire dans les projets de loi ? Ce qui, du coup, à mon avis, poserait un problème sur le côté, justement, long terme, parce que comment est-ce que tu fais pour voter sur des mesures d'urgence si tu es censé t'occuper du long terme ? Mais Léa, tu penses que c'est possible d'avoir une troisième chambre qui serait le CESE, qui interviendrait dans l'examen des projets de loi ?
C'est exactement ce à quoi je pensais quand tu as posé la question de la réforme de cette chambre haute et d'une éventuelle 6e République. Moi, j'imaginerais bien un truc un peu hybride entre, effectivement, le CESE, revoir le rôle du CESE et puis adosser on peut pas juste supprimer le Sénat, ça me semble un peu compliqué, notamment parce qu'il faut le rappeler, le Sénat est quand même la chambre qui représente les territoires, et ça c'est quelque chose qui reste quand même très important dans notre pays, qui est excessivement centralisé, donc ça faut quand même l'accorder au Sénat, qui est censé être le garant des collectivités locales, donc ça me semble être un rôle très important qu'il faut conserver, et il faudrait effectivement, je pense, réfléchir à une espèce de deuxième structure hybride qui pourrait peut-être englober les pouvoirs du Sénat et revoir, bien sûr, pour moi, ce qui pose un gros problème aujourd'hui, c'est le méthode de scrutin. On ne peut pas continuer en 2020 à élire des personnes de manière indirecte. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Je pense que le suffrage universel direct, c'est un des piliers de la démocratie, mais ça n'engage que moi. Et effectivement, je pense qu'il y a quand même un désintérêt de la part des citoyens face à cette question du fait que cette forme de scrutin. Donc, effectivement, réfléchir peut-être avec les compétences du Sénat à un mode de scrutin plus direct. Et adosser une chambre composée de citoyens, peut-être tirés au sort, comme pour la convention citoyenne, et qui puisse effectivement... Après, sur la question, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur l'aspect légiférer sur des mesures d'urgence sans intégrer les ambitions de long terme et les questions de long terme. En fait, je pense que c'est là où on ferait peut-être des erreurs. Je pense que la notion de moyen ou long terme doit toujours être prise en considération, même sur les mesures d'urgence. Et c'est un peu l'erreur qu'a fait le gouvernement, à mon avis, sur pas mal de décisions qui ont été prises d'urgence pour contrecarrer la crise sanitaire et, dans une certaine mesure, la crise économique et sociale. Je pense que ne pas avoir l'élément long terme en tête peut, même sur des mesures d'urgence, nous mettre dans une impasse qui peut finalement avoir des aspects irréversibles demain. Donc ça, je pense qu'il faut toujours avoir quand même cette dimension long terme. Quand bien même on ait besoin de légiférer, on a besoin de légiférer de manière urgente.
Troisième sujet, les amis, on va passer au sujet le meilleur pour la fin, évidemment, le sujet que tout le monde attend, c'est ce discours d'Emmanuel Macron prononcé ce matin à la mairie du Mureaux, ce discours pour lutter contre le séparatisme islamiste. Emmanuel Macron, donc, qui a décidé de reprendre la parole sur ce sujet-là, un mois et demi, je crois, après son fameux discours du Panthéon, là, pour les 150 ans de la Troisième République. Où il avait déjà abordé le sujet, et donc du coup voilà, il est revenu longuement dans un discours de plus d'une heure et demie que j'ai même pas eu le temps de terminer sur ce sujet. Et là voilà, Emmanuel Macron a décidé de mettre les pieds dans le plat et de présenter l'architecture d'un projet de loi qui sera officiellement adopté en Conseil des ministres le 9 décembre prochain, dans deux mois. Emmanuel Macron qui donc a dit je cite, ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. Il l'a dit à plusieurs reprises, il faut nommer les choses. Je n'ai pas du mal à prononcer moi-même le mot islamisme. L'islam radical, cette idéologie qui affirme que ses lois propres sont supérieures à celles de la République, etc. Fin de citation. Emmanuel Macron qui donc a fait ce grand discours. Alors du coup, c'est la partie un peu de l'émission que j'ai moins préparée parce que du coup, j'étais en train de regarder le discours avant qu'on commence pile poil cette émission. Qu'est-ce que vous en avez pensé dans les grandes lignes d'abord de ce discours ? Est-ce qu'il vous a surpris ? Est-ce qu'il y a une posture du président de la République qui vous a surprise ? Et ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail. Usul.
Oui, alors il dit les termes, hein. Apparemment je crois que c'est Xavier Bertrand qui lui avait dit oui, il n'ose pas dire le mot islamiste, islamisme. Si, il ose, hein, il n'y a pas de souci, il ose faire du Sarkozy, il ose proposer à nouveau, comme Sarkozy à l'époque, En fait, ce qui est très très étonnant, enfin c'est n'importe quoi, un label républicain de la formation des imams. Elle est où la laïcité là-dedans? Enfin, voilà, il nous refait du Sarkozy en voulant essayer de construire ou contrôler un islam de France parce que c'est chiant l'islam, il n'y a pas d'interlocuteur ou alors il y en a trop, il n'y en a pas assez. Donc c'est les mêmes recettes parce que ça y est, c'est acté quoi. Pourtant c'est bizarre, c'est pas tellement sa culture politique à la base Macron de taper sur les musulmans dès qu'il faut calmer la droite ou donner des gages à la droite, etc. Normalement c'est pas sa culture politique. Mais ça a entériné le fait que Macron est un président de droite comme les autres quoi, et même plus dur que pas mal d'autres, qui a aucun scrupule à nous refaire du Sarkozy sur ces questions-là.
Est-ce qu'il vise vraiment les musulmans en tant que musulmans, puisqu'il a expliqué dans sa manière justement de préciser de quoi on parle, il a dit que la bonne technique pour la voie qu'il a tracée pour ne pas tomber dans la stigmatisation des musulmans, c'est d'isoler le problème. Il a utilisé cette expression-là en disant « Mon objectif, c'est d'isoler le problème. Le problème, c'est l'islamisme radical. C'est une méthode politique voulue, etc. Il faut l'isoler du reste des musulmans qui, eux, n'ont absolument jamais rien demandé et qui, au contraire, sont très emmerdés par ce truc-là. »
Et pourtant, c'est que des mesures qui stigmatisent les musulmans. Donc, il peut toujours vouloir dire qu'il veut isoler le problème et que ce n'est pas les musulmans dans leur ensemble le souci. Il continue à… Enfin, c'est quand même… Effectivement, les mesures sont complètement hallucinantes et elle stigmatise les musulmans dans leur ensemble. Et d'ailleurs, les réactions n'ont pas tardé à tomber sur les réseaux sociaux. Une grande partie de cette communauté-là et de la gauche de manière générale s'est sentie complètement insultée par ce discours. Et on peut ne pas s'en étonner. Moi, je trouve ça presque… C'est un jeu d'équilibriste très dangereux qu'il fait parce qu'il a quand même… réussi à s'attirer les foudres de la droite, ce qui quand même fallait y aller, qui lui ont dit qu'il n'était pas assez radical justement. Et je regardais sur Twitter, il y avait pas mal de réactions, notamment de Bruno Retailleau, qui disait que il y allait pas assez fort parce qu'il, de cette fois-ci, c'était parce qu'il parlait pas d'immigration, donc tant qu'à faire, allons-y. Il y avait Jean-Marie Le Pen qui a dit qu'il avait c'est le Front National, mais quand même, le Rassemblement National, pardon, qui avait abdiqué face au Grand Rassemblement, Jean Messia, pareil, il y avait Nicolas Dupont-Aignan, enfin vraiment toute l'extrême droite qui lui est tombée dessus en disant qu'il avait été beaucoup trop faible, alors que pourtant, il a quand même été assez dur, j'ai trouvé, dans ses propos, parce qu'il a fait une erreur, ce qu'il lui reproche, c'est les 10 millions d'euros qu'il veut donner à la Fondation islamique de France pour justement… prendre un petit peu le contrôle sur la manière dont on enseigne.
Sur la formation des imams, aussi. Pour lutter contre le financement étranger, en gros, c'est ça. Ouais.
Voilà, c'est exactement. Mais pas que, aussi sur la culture, qu'il appelle la culture islamique et sur l'enseignement de l'arabe, qu'il faut encadrer plutôt que ça se fasse par des associations qui, selon lui, peuvent être radicales et radicalisées. Et en fait, c'est juste ces petites mesures. C'est quand même c'est une minute de son discours qui lui a valu que toute la droite, alors qu'il est en train de marcher sur leur plate-bande, et je pense qu'ils sont un petit peu en train de paniquer parce qu'il est en train de leur reprendre tout leur programme et toutes leurs revendications, lui sont tombés dessus pour ces 10 millions d'euros pour le fait, en disant qu'il était en train de lui-même financer le grand remplacement en voulant financer justement cet enseignement de l'arabe à l'école. Et je trouve que c'est assez intéressant la position dans laquelle il s'est mis, ce qui est super délicate parce qu'il a toute la gauche qui lui tombe dessus en le traitant de facho, et il a aussi une partie de la droite assez importante qui lui tombe dessus en disant qu'en fait il est beaucoup trop léger sur la question et que au contraire il va même financer l'arabe à l'école, qui était en soi une mesure qu'on avait pu attribuer à la gauche. Et donc je pense que stratégiquement c'est mauvais, en plus d'être aberrant d'un point de vue intellectuel.
Léa, qu'est-ce que tu penses du diagnostic qui a été posé par Emmanuel Macron dans ce discours, quand il parle notamment en disant il faut qu'on se dise la vérité en face, on a un problème avec notre passé colonial qu'on n'a jamais réussi à digérer, et aujourd'hui on paye aussi les prix d'une ghettoisation territoriale. On a mis les enfants de la colonisation, on les a mis dans des ghettos, la République a démissionné faute de services publics, et on se retrouve aujourd'hui du coup avec un islamisme qui une idéologie de l'islam radical qui naît dans ces quartiers-là et qui prospère sur le dos précisément de cette identité mal digérée.
Et c'est ce qu'il appelle notre propre séparatisme, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça.
Quand il a parlé de ça. Il y a une partie de l'analyse qui est juste, hein. Moi, je ne vais pas dire le contraire. On a effectivement contribué à une, comment dire, à un recul du service public, à la misère dans certains quartiers, à la situation sociale. Alors, moi, ce qui me gêne, en fait, quand il parle de tout ça, c'est qu'il parle beaucoup de crise politique, de crise du religieux, mais très peu de crise sociale. Ça, c'est quand même un point assez important, à mon sens. Il y a autre chose qui me gêne un peu globalement dans le discours. Je reviens sur la globalité du discours, parce qu'il y a un point que je voulais quand même aborder, mais c'est finalement quelque chose d'assez symptomatique en France. C'est qu'il y a une conception véritablement ethnique de la République et une difficulté, en fait, à accepter le pluralisme culturel. Ça, c'est mon impression, vraiment.
Ça.
Parce qu'il parle d'ingérence étrangère, il parle, lorsqu'il parle notamment de l'enseignement de l'arabe, j'ai toujours le sentiment qu'on essaie de chercher un peu un bouc émissaire pour les mots de la société française, et ça, c'est quand même assez symptomatique. Enfin, il n'a rien inventé là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment cette difficulté, mais ça va au-delà du politique, hein, c'est globalement aussi dans la société française, d'accepter en fait la différence, tout simplement. Aussi parce que, attends, il a quand même convoqué la notion, alors ça m'a vraiment, ça m'avait fait bien marrer, de patriotisme républicain.
Ouais. À opposer justement à l'idéologie mortifère de l'islam radical.
Alors voilà, on essaie de créer en fait une espèce de... C'est en ça que je parle de conception ethnique de la République, en quelque sorte. On essaie de créer un modèle auquel devraient répondre en fait tous les Français ou ceux qui souhaitent être Français, en quelque sorte. Et je ne suis pas certaine que ce soit comme ça qu'on construise une société, mais ça n'engage que moi. Peut-être que je suis trop tolérante, enfin, j'en sais rien. Quand on voit une députée qui demande à une jeune fille de partir d'une audition parlementaire parce qu'elle porte un voile, là, on est sur la conception ethnique de la République, à mon sens. Et je pense que c'est assez grave. Et dans une certaine mesure, tout en essayant, bien sûr, de ne pas non plus trop s'ancrer là-dedans, lorsque Emmanuel Macron tient ce type de discours, pour moi, il s'inscrit dans cette logique, véritablement. Pour ce qui
est identitaire, hein, on peut
oui.
Dire
ça. Oui, oui, c'est ouais. Identitaire, absolument. C'est identitaire, absolument. Et finalement, ça vient à... ils nomment des ennemis, ils parlent d'ennemis. C'est quand même assez grave. Enfin, on est parfois quand même face à des personnes qui sont des citoyens de la République, qui font partie intégrante de la société.
Il parle de terrorisme quand même. Enfin, en l'occurrence...
Oui, mais pas que.
Ouais, ouais.
Bah là, il parle des radicaux quand il parle d'ennemis. Enfin, lui, c'est ce qu'il dit.
Oui, bien sûr. Mais il y a vraiment cette volonté un peu de fabriquer des citoyens qui ne sont pas tout à fait des citoyens, mais parce qu'ils ne sont pas tout à fait prêts à embrasser toutes les valeurs de la République. Je ne parle pas que des radicaux, hein. je parle de manière générale. Enfin, lui, pour lui, l'idéal, c'est vraiment quelqu'un qui embrasse avec beaucoup de ferveur les valeurs de la République. Alors oui, ce serait peut-être ce qu'il faut faire, je ne sais pas, mais... Encore faut-il donner envie, en fait, aux gens d'embrasser ces valeurs. Et ça, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de mesures très concrètes qui ont été annoncées.
Alors,
pendant ce discours, pour donner envie, en fait, de faire partie intégrante de la société française.
Alors, les mesures, parlons-en. Un certain nombre d'axes donc, ont été présentés. Des mesures, en gros, c'est un gros tour de vis sur un certain nombre de choses dans les interstices desquelles Emmanuel Macron estime qu'on a laissé prospérer l'islam radical. En tout cas, l'islam radical se sert d'un certain nombre de fissures dans notre droit. Là, il s'agit de colmater tout ça. Le préfet aura beaucoup plus de pouvoir d'agir, notamment en contrôle de l'égalité sur les décisions des collectivité territoriale, un préfet pourra interdire à une mairie, pourra empêcher la mise en place d'une délibération d'un conseil municipal qui serait contraire aux valeurs de la laïcité. J'ai vraiment hâte de voir le règlement de tout ça devant les tribunaux administratifs, ça va être passionnant à suivre. Les associations, il y aura un contrôle renforcé sur les associations. La dissolution d'associations sera rendue plus facile qu'auparavant. Pareil, j'ai hâte de voir ce que va en dire le Conseil constitutionnel. Toutes les associations de France et de Navarre qui percevront des subventions publiques signeront un contrat de laïcité.
Une charte.
Il a parlé de contrat, voilà, en disant que si le contrat n'est pas respecté, ils vont devoir rendre l'argent. C'est pas seulement vous aurez plus le droit de toucher de l'argent, c'est vous allez devoir rendre le pognon. Il a parlé des écoles. L'éducation à domicile va être strictement limitée à un impératif médical. Voilà, les cours un petit peu chelous de langues étrangères qu'on appelle les ELCO vont être définitivement supprimés et remplacés par un autre type d'enseignement avec une autre contractualisation. Et enfin, donc, on a parlé de la structuration d'un islam des Lumières, comme il l'a dit, au moment duquel, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très intéressant. Il a dit qu'il avait hésité dans sa réflexion à une approche concordataire. C'est la première fois que j'entends un président de la République affirmer « j'y ai réfléchi ». J'ai finalement laissé tomber cette idée-là. Il n'y aura pas d'approche concordataire, mais j'y ai réfléchi. Salomé, tu veux réagir ?
Oui, mais je voudrais revenir sur ce que disait en fait Léa au tout début, parce que c'est exactement ça. C'est qu'il nous propose tout un panel de mesures sans parler de crise sociale, qui est pourtant la cause de la radicalisation. Pour moi, à mon sens, la cause première, c'est vraiment la crise sociale. La radicalisation n'est que le symptôme de ça. Donc, l'éducation, pour moi, c'est symptomatique de sa politique, c'est symbolique. C'est qu'il va nous dire, OK, on arrête, maintenant, vous n'avez plus le droit de faire l'école à la maison. Par contre, on ne met pas de fonds particuliers dans l'éducation nationale, et on sait qu'il y a des problèmes majeurs dans les écoles primaires, au collège, partout. L'éducation rencontre de vrais problèmes. Donc, comment on peut encourager les gens à ne plus faire l'école à la maison si l'école publique n'est plus satisfaisante aujourd'hui? Et c'est exactement la même chose pour l'ensemble des mesures qu'ils proposent sur, enfin, ça n'a pas de, comment dire, s'il n'y a pas de politique publique derrière pour soutenir ça, c'est juste de la répression en fait, et ça n'a pas vraiment de sens. J'avais un autre exemple que j'avais noté. Oui, il dit, il y a vraiment une phrase qui m'a vraiment marqué déjà dans le vocabulaire, puis aussi dans ce que ça veut dire, c'est il veut une présence républicaine en bas de chaque tour, en bas de chaque immeuble. Mais de quoi on parle? De quoi on parle quand on parle de présence républicaine, quand on sait qu'il y a des
flics
qui...
Je crois que ça va être des emplois aidés par la mairie.
on en vient à cette fameuse question toujours de la sécurité, de la répression, de la police, dont on parlait déjà dans un débat précédent, c'est-à-dire que la police n'a absolument pas les moyens, et une seconde aujourd'hui, d'assurer une présence républicaine, ne serait-ce que pour empêcher des délits majeurs. Donc de là à vraiment avoir cette présence qui serait presque idéologique, d'aurait envie d'adhérer aux valeurs de la République, mais on est loin. Commencez déjà par nous fournir une police qui fonctionne et qui matraque pas les gens dans certains quartiers de la République, justement, et on pourra commencer à parler de présence républicaine en bas de chaque immeuble de France. C'est quand même, je trouve cette phrase complètement délirante dans un contexte où on n'a absolument pas les moyens de faire ça, en fait.
Et donc, ouais, Léa, tu parlais de l'approche normative qu'il a de ce qu'est un bon citoyen français, au point d'aller mettre son nez dans ce que devrait être un islam en France, parce que donc le problème apparemment donc c'est l'islamisme, mais en fait non, c'est le fondamentalisme. Il y a des fondamentalismes juifs, hein, il y a des fondamentalismes catholiques, mais là voilà, l'État va aller mettre son nez sur avoir des croyances radicales en religion, c'est pas, c'est autorisé en fait, mais bon.
Oui. Enfin, on parle d'un autre type de radicalisme là quand même quand t'as des passages à l'acte.
On parle de tout et de rien. On parle de tout et de rien. On parle de l'islam, on parle de machin. C'est fait pour être glissant, j'ai envie de dire.
Tu peux être un musulman intégré sans pour autant te faire sauter de partout, quoi.
Voilà. Enfin,
comme tu peux avoir des cathos intégristes, comme tu peux avoir des juifs intégristes. Enfin, je veux dire, la radicalisation à certains degrés aussi. Et la radicalisation ne mène pas forcément à faire des attentats. Moi, il y a un élément que j'aurais bien aimé avoir, c'est des chiffres éventuellement. Comment trace-t-on la radicalisation? Comment sait-on que quelqu'un qui, effectivement, tiens, un jour va décider de porter le voile ou va décider de porter la barbe plutôt islamiste, va nécessairement avoir ce parcours qui va l'amener auprès de Daesh au Moyen-Orient ou aller se faire sauter devant le Bataclan. Enfin, franchement, je ne suis pas certaine, quoi. Il y a quand même des éléments, je veux dire, moi, je veux bien qu'on traite d'un problème qui peut être un problème et qui peut mettre en difficulté l'unité de la société, l'unité de la nation et compagnie. Mais moi, j'ai envie qu'on soit en mesure aussi de documenter ces choses-là. Et effectivement, il y a eu des attentats, il y en aura encore, mais moi, ce que je veux savoir, c'est l'impact, en fait, des mesures de radicalisation, la radicalisation qui pousse à des choses aussi violentes et aussi inacceptables. Enfin, ce n'est même pas des personnes qui sont radicalisées. Là, c'est des personnes qui sont véritablement des personnes qui sont au-delà de la marginalisation, qui ont un dégoût tel de la société. Mais je ne suis même pas sûre que ce soit par finalement,
mais ça part de là quand même.
Finalement, la religion est peut-être, n'est peut-être qu'un prétexte.
Mais bien sûr, certains chercheurs disent ça. Ouais.
On va laisser Usul finir.
Qui sont des ennemis de la société.
C'est effectivement ce que disait Emmanuel Macron là aussi dans son diagnostic. Ensuite, je donne la parole à Usul puis à Salomé. Il a dit qu'il y a en grosso modo, il y a deux types de terrorisme quand on parle d'islam radical. Il y a le terrorisme qui est idéologique et qui est exogène, des gens qui viennent de l'étranger d'un terrorisme. Enfin, c'est un peu celui qui a fait les camps d'Al-Qaïda qui s'est formé à l'étranger et qui vient, qui est résolu, etc. Et il y a un autre terrorisme qui est plus psychiatrique, de jeunes qui ont trouvé dans l'islam une raison de se radicaliser, mais qui de toute façon se seraient radicalisés, quelle que soit l'idéologie à la mode du moment. Il se trouve qu'ils ont chopé le premier drapeau qui passe, il se trouve que c'était celui de l'islam radical, donc let's go, on y va. Donc effectivement, il parle bien de ces deux trucs-là en expliquant que dans un cas comme de l'autre, les deux trouvent leur terreau quand même dans l'islam radical qu'ils développent, etc. Machin. Bref. Mais donc effectivement, c'est différent.
Ou leur prétexte.
Ou leur prétexte. Usul, du coup, vas-y, continue. Toi, tu voulais en venir là aussi sur la mesure de la radicalité.
Oui, bah, c'est-à-dire, oui, en fait, ce sont des adversaires politiques de la France. Et pour tout un tas de raisons, je veux dire, ces terroristes-là, si on va jusqu'au terrorisme, qui se réclament de l'islam parce qu'il y a un drapeau qui existe, qui est prêt à être brandi. Et quand on regarde après les parcours des terroristes, tu vois qu'ils ne viennent souvent pas de là, ils viennent d'un passé de petite délinquance ou de, voilà, des choses comme ça. Et donc, ils se vivent comme des adversaires politiques pour des raisons, pour une colonisation et une décolonisation qui n'est toujours pas gérée, pour les guerres, l'ingérence de la France en Syrie, ailleurs, pour la politique de la France, pour ce pays-là. Donc, la question aussi, c'est comment susciter en effet de l'adhésion chez une partie pour la République, de l'adhésion aux valeurs de la République, comme on dirait bêtement, mais même on pourrait dire à ce pays, tout simplement, pas seulement la République, mais à la France, quoi. Peut-être qu'il faudrait aussi entamer une vraie réflexion sur en effet le notre passé colonial, etc., plutôt que de foutre ça sous le boisseau en permanence. Et puis si on a envie aussi de susciter l'adhésion, il faudrait peut-être prendre le problème autrement. Pourquoi certains voient l'État comme un adversaire, mais peut-être parce qu'ils vivent dans leur chair, par exemple les violences policières, la présence policière dans les quartiers, etc. Donc, qui vivent dans leur chair, leurs parents qui se sont fait exploiter pendant des années par le capitalisme français et auxquels qui vivent aujourd'hui de petites retraites dans de mauvais immeubles, etc. Eux, ils n'avaient pas de perspective. Enfin voilà, il y a tout un système auquel répondons aux angoisses aussi derrière pour ne pas créer ces adversaires politiques.
Salomé, pour le mot de la fin, ensuite on conclut et ce sera la fin. Salomé.
Je pense effectivement qu'il ne faut pas nier qu'il y a un problème de radicalisation en France et qu'il faut prendre ce problème à bras-le-corps et que parfois la gauche est un peu frileuse avec ça parce que c'est un sujet qui est extrêmement délicat et je le conçois, mais je pense quand même qu'il faut prendre ce problème à bras-le-corps, mais que là, la question, c'est celle des chiffres, c'est celle de l'efficacité des mesures qu'il est en train de proposer. Et en l'occurrence, par exemple, les associations, faciliter la fermeture administrative des associations sur la base d'un texte extrêmement vague, ça peut aussi donner lieu à la fermeture de plein d'associations qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui n'ont rien à voir avec la radicalisation. Et ça peut, je sais pas, ça peut être une association écologique, on sait pas. Enfin, on sait pas à quoi ça peut ouvrir la porte. Même chose avec la question des établissements hors contrat dont il veut augmenter les inspections, pouvoir exiger leur fermeture. Je lisais tout à l'heure ces chiffres qui sur 1700 établissements en France, il y en a 70 qui sont musulmans. Donc ça veut dire qu'on va commencer à inspecter tout.
Non, je croyais qu'il y en avait 70 qui avaient été fermés. C'est pas le chiffre de fermeture, les 70?
Il me semblait que... Non, 1700 qui étaient en France.
Ok, d'accord.
En tout cas, il me semble, enfin, c'est les chiffres que j'ai trouvés tout à l'heure, juste après le discours de Macron, et qu'il y a, en tout, il y a 5% des écoles qui sont musulmanes, 17% des écoles qui sont de confession catholique, et que voilà, commencer à se dire, ok, le problème, c'est les établissements hors contrat, mais en fait, c'est 5% de ces établissements-là. Est-ce que se mettre à tout inspecter et à peut-être enfermer, est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème de la radicalisation en France? On n'en est pas certain. On ne s'appuie pas sur des chiffres. À aucun moment, il ne s'appuie sur des chiffres pour justifier ces mesures-là. Et pour moi, on a vraiment le problème, avant tout, de l'efficacité des mesures et en l'occurrence du vocabulaire qui a été utilisé pendant tout ce discours, qui pour moi va plus inciter à la radicalisation qu'autre chose, parce que franchement, si j'étais musulmane, moi je me sentirais clairement attaquée par et stigmatisée par ce discours, et ça va en rien résoudre le problème de la radicalisation en France. ça ne peut pas plus adhérer à des valeurs républicaines quand on a un discours aussi offensif, à mon sens.
Après, on peut se plaindre de CNews, de Zemmour, machin, mais si en permanence on leur fait des boulevards comme ça, avec des débats comme ça, une heure et demie, vous parliez de chiffres, Léa et Salomé. Oui, c'est quoi les chiffres? Par exemple, Schiappa nous sort de son chapeau les certificats de virginité. C'est combien? C'est qui? C'est quand? C'est où? Les médecins, il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ça, quoi. Que ça, c'est... Donc, chiffrons à ce moment-là, donnez-nous vraiment des chiffres pour nous dire que ces trucs-là justifient 1h30 de discours sur l'islam.
Et les chauffeurs de bus aussi, qui ne laisseraient pas rentrer des jeunes femmes parce qu'elles seraient habillées trop dénudées, alors que le ministre de l'Éducation, il y a deux jours, vient de dire qu'il faut absolument que les lycéennes aient des tenues républicaines. Enfin, c'est quand même plein de contradictions et... Et ça rend difficile l'acceptation de ce discours, je trouve.
Ok, on vous a entendu là-dessus. Est-ce que... On va s'arrêter, c'est la fin de cette émission déjà. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table rapide sur vos actualités chacun? Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets pour ceux qui nous écoutent et qui vous découvriraient ce soir, Usul?
Toujours sur Twitch, la chaîne Usul 2000. Je Twitch pas mal. La semaine prochaine, j'ai en interview Ariane Chemin et Julia Cagé aussi. Donc, je vais reprendre un peu les interviews. Puis sinon, Mediapart, évidemment, tous les lundis sur le site et le compte YouTube de Mediapart, ouvrez les guillemets. Ce sera sur la 5G lundi.
Ok. Salomé ?
Moi, toujours au vent se lève, il va y avoir plusieurs vidéos qui vont paraître dans les semaines à venir. Et puis, je rappelle que Le Vent se lève sort un livre qui s'appelle Les Cahiers du Vent se lève, qui est actuellement disponible dans vos librairies. Et voilà.
Léa ?
Pas d'actualité brûlante, si ce n'est que je peux annoncer les deux prochains sujets du podcast. Vraisemblablement, on va travailler sur les travailleurs du sexe et aussi sur le mal logement, mais certainement que le mal logement sera traité avant. Donc voilà, tenez-vous. Okay.
Et le podcast qui s'appelle Place du Palais Bourbon. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao.
Bisous.